Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, ces avancées de l'armée au Sud Kivu, les FARDC disent avoir récupéré hier la cité de Mikenge dans le haut plateau des mains de la FCM-23. Elle parle de plusieurs morts parmi les rebelles et aussi des prisonniers. Vous suivez le sous-lieutenant Rigan Bouy, porte-parole des opérations Sukola 2 Sud-Sud Kivu. Pendant Kivu, des représentants des communautés riveraines du lac Kivu saluent le projet d'exploitation du gaz méthane pour la production d'électricité par la société américaine Symbion Power, mais ils exigent toutefois une étude de l'impact environnemental et social avant toute exploitation de ce gaz. 46 coopératives du territoire d'Isangi dans la Tchopo viennent d'être immatriculées auprès du Service national de coopératives et organisations agricoles relevant du ministère du Développement rural. C'est grâce à l'Agence belge des coopérations internationales. Mais quels sont les avantages liés à ces immatriculations? Nous recevons pour cela Prosper Ntema, manager d'Enabel dans la province de la Tchopo. Bienvenue à cette édition du journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir repris hier la cité de Mikenge aux rebelles de la FCM-23. Mikenge est située dans le haut plateau à proximité de Minembwe, dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu. Selon le porte-parole des opérations Sukola 2 Sud-Sud Kivu, plusieurs rebelles ont été neutralisés et certains capturés lors des combats. On écoute ces précisions du sous-lieutenant Rigan Bouy.
Ce projet attendu depuis plusieurs années ouvre la voie à un développement.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté aux provocations de l'ennemi RDF M23FC et leurs alliés Tuganeo Red Tabara dans les territoires de Fizi, précisément à Nyawarangang, après les violations délibérées du cessez-le-feu. Au cours de cette farouche riposte de l'armée loyaliste, les nouvelles cités et villages ont été reconquis. Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilalombila, Bidegu. Au-delà de ces villages reconquis, l'armée loyaliste a neutralisé plusieurs rebelles, 5 éléments capturés sur place et 17 autres rendus. Et nous avons aussi constaté 11 corps qui ont été abandonnés en même les sols, parmi lesquels un commandant brigade des rebelles M23 AFC et un autre officier chargé de la logistique. Et j'étais tous accompagnés de leurs escortes qui étaient également neutralisés sur le champ. Nous appelons à la population de Mikenge et celle de Minembwe d'être vigilante, à se méfier des informations illicites et mensongères.
Et dans la province du Maniema, une paralysie totale des activités est observée ce lundi 2 mars dans la commune rurale de Salamabila, territoire de Kabambaré. Boutiques, marchés, écoles et services publics sont fermés, conséquence d'une psychose née des affrontements survenus hier dimanche après-midi entre les membres Maïma et Malaïka. Les causes et le bilan de ces affrontements restent pour l'instant inconnus. Craignant pour leur sécurité, les habitants appellent à une intervention urgente des autorités compétentes afin de rétablir la situation. Qu'en est-il au juste, Florence Kizalunga?
Selon des sources locales, les affrontements ont eu lieu au camp dit Mingazi, situé à seulement 2 kilomètres de Salamabila. Ils ont provoqué un déplacement massif des populations vers le village environnant. Plusieurs sources évoquent des morts et des blessés. Face à cette situation, les présidents de la société civile locale appellent le dirigeant à s'impliquer rapidement. Témoignage de Barouane Saïd Vumba.
C'est cet après-midi d'hier, dimanche 1er mars, à Salamabila, qu'il y a eu affrontement entre les éléments Maïma et Malaïka. C'est-à-dire, l'affrontement était entre eux-mêmes. Ils se sont battus dans leur camp, communément qu'on appelle Mingazi, qui se trouvant à 10 kilomètres de la commune de Salamabila. Les affrontements ont causé non seulement des morts, mais aussi une panique généralisée. Aujourd'hui, on se réveille, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'école, il y a paralysie totale dans la ville de Salamabila. Il n'y a aucune activité. Nous demandons aux autorités de pouvoir gérer les Wazalendo pour au moins laisser la paix à la population.
Il faut signaler que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont déjà été déployées pour sécuriser la population et ses biens. Une mesure largement saluée par les habitants. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et dans la ville de Kisangani, un conflit de voisinage a viré au drame le week-end dans la commune de Mangobo. Des jeunes des blocs Lumbulumbu et Mambinza se sont affrontés violemment, laissant derrière eux un bilan humain et matériel lourd. Jacques Komokonko l'explique.
Le bourgmestre adjoint de Mangobo, Jean Akaluko Touo, rapporte que tout a basculé le samedi soir aux alentours des 17h. L'étincelle de ce conflit, le saccage d'un kiosque appartenant à un jeune homme du bloc Mambisa par un groupe d'individus venus du bloc Lumbulumbu. Lors de cette incursion, des bouteilles de boissons fortement alcoolisées ont été emportées, provoquant la colère du camp adverse. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les jeunes de Mambisa se sont organisés pour mener une contre-attaque. Si le calme semblait être revenu durant la nuit, les hostilités ont repris de plus belle hier dimanche dès 6h du matin. Les accrochages ont duré une grande partie de la journée, ne prenant fin que vers 17h grâce à l'intervention des forces de l'ordre. L'autorité municipale dresse un constat amer de ces deux jours de violence. Un jeune homme a perdu la vie au cours de ces échauffourées. Deux autres personnes, dont un chef de bloc grièvement blessé, sont actuellement internées à l'hôpital. Sur le plan matériel, de nombreux biens appartenant à des particuliers ont été emportés. Le calme reste précaire dans la zone et la population appelle à une présence policière durable pour prévenir de nouveaux actes de représailles. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Kinshasa, plus de 400 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. C'est dans le cadre de l'intensification de l'opération Dobo, initiative phare du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène. Ces chiffres ont été révélés dans une note d'information du vice-premier ministre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemin Chabani, lors de la 80e réunion du Conseil des ministres. Il couvre la période allant du 21 au 22 février dernier. Les personnes interpellées ont été déférées devant les instances judiciaires compétentes afin de répondre de leurs actes. Nous sommes au Nord Kivu. Une vingtaine de représentants des communautés riveraines du lac Kivu exigent la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social avant toute exploitation du gaz méthane dans le bloc Makelele. Leur demande est consignée dans un cahier de charges remis samedi à la société américaine Symbion Power. Cette initiative intervient à l'issue d'une série de séances de sensibilisation organisées par l'ONG Appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement AICED. Bernard Denyangui pour d'autres précisions.
Dans un extrait de leur déclaration, un représentant des habitants de Goma a dit soutenir le projet d'exploitation du gaz méthane. Il insiste cependant sur l'importance de prévenir tout incident susceptible d'affecter la vie sociale ou l'équilibre environnemental de la région lorsque les activités débuteront.
On appelle à Symbion Power et répéter des dispositions légales avant toute exploitation native à l'étude et partie environnementale et sociale et au respect du cahier des charges et des communautés.
Faustin Yeboné, coordonnateur de l'ONG AICED, précise pour sa part que cette démarche vise à garantir la durabilité économique, sociale et environnementale.
Pour qu'il y ait maintenant des mesures d'atténuation par rapport à ces projets-là, pour que ça puisse réveiller les trois piliers et puis effectivement, à la fin, même les générations petites puissent profiter de ces projets.
Le gouvernement congolais a déjà délimité quatre blocs gaziers sur le lac Kivu, dont Makelele, qu'avait gagné Symbion Power. En août 2025, la direction générale de cette multinationale américaine avait annoncé son intention d'investir 700 millions de dollars américains dans la construction d'une centrale électrique devant produire près de 140 mégawatts grâce au gaz méthane.
Une nouvelle ère s'ouvre pour le café au Nord Kivu et en Ituri. Le projet de relance de la culture du café Robusta dans les deux provinces a été lancé samedi à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, par le gouverneur de province, le général Évariste Kakule-Somo. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires ainsi que des responsables d'associations d'exportateurs et d'agriculteurs des cafés de ces deux provinces. Ce projet est considéré comme un levier majeur pour revitaliser la filière café et renforcer l'économie agricole locale. Que retenir d'autre, Marcel Papimoukeba?
Ce projet quinquennal sera exécuté par l'organisation belge Ricolto qui soutient les chaînes de valeur agricoles durables à travers le monde avec le financement du Fonds international de développement agricole FIDA et des JDE PITS, entreprises néerlandaises spécialisées dans les cafés et les thés. Au total, 12 000 agriculteurs bénéficieront de ce programme, dont 4 000 femmes et 6 000 jeunes. Le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo, souligne l'importance de cette initiative pour le Nord Kivu et l'Ituri.
Le Robusta va certainement reprendre sa place. Et cette fois-ci, croyez-moi, seul le ciel sera notre limite. 12 000 vies, femmes, jeunes et hommes vont, avec l'impulsion de nous tous, biser les chaînes prompteuses de la richesse
minière que regorge les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ces provinces vont retrouver leur place grâce à la transformation agricole.
Le café Robusta est très demandé dans le monde. Moins coûté et plus riche en caféine que l'Arabica, il occupe une place clé sur les marchés mondiaux. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Katanga, il y a eu installation le week-end à Lubumbashi de la direction provinciale de la DRC Gold Trading SA, une entreprise du portefeuille de l'État congolais spécialisée dans la lutte contre la fraude ainsi que la contrebande dans la filière de l'or artisanal et à petite échelle. Dans un communiqué de presse, l'organisation de la société civile Kasmia, qui œuvre dans le secteur minier, considère que l'implantation de cette succursale dans le Haut-Katanga est une occasion pour le gouvernement de reprendre le contrôle d'un secteur longtemps marqué par l'informel. Temple d'État avec Paula Munanga.
L'organisation Kasmia GASBL considère que l'implantation de la direction provinciale de la DRC Gold Trading SA est un engagement affiché par le gouvernement à poursuivre son action d'appropriation de ses ressources naturelles. Cette organisation exhorte l'État congolais à clarifier et renforcer sa politique dans le secteur de l'or artisanal en mettant l'accent sur la traçabilité et la lutte contre la fraude, notamment aux postes frontaliers stratégiques comme Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Dilolo ou encore Kasenga. Malgré l'implantation de la DRC Gold SA dans le Haut-Katanga, Kasmia estime que les défis structurels demeurent majeurs. Elle décrit les conditions d'exploitation dangereuse de l'or, des pratiques illégales persistantes et une dégradation environnementale préoccupante. Le communiqué dénonce notamment la présence d'acheteurs étrangers sur les sites miniers, l'installation illégale d'unités d'extraction et de traitement ainsi que l'exploitation de l'or dans les périmètres appartenant à des entreprises telles que Kisenge Manga, Cominière ou encore Kibali Gold Mining. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La cité de Lubao, située à plus de 200 km de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, bénéficie désormais d'une alimentation électrique stable. L'ANSER, Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, a procédé samedi à la mise en service officielle du réseau. Les ménages, services publics, radios communautaires et structures locales peuvent désormais accéder au courant électrique. La cérémonie a rassemblé les autorités locales, les responsables communautaires et les représentants de la société civile. Pour les habitants, l'électricité n'est pas seulement un confort, elle facilite la communication locale, soutient les radios communautaires et renforce la cohésion sociale. Ces informations de Ezaboto Yombwe de la radio Veritas Kabinda sont rendues ici par Élisée Chikota Chivueta.
Ce projet attendu depuis plusieurs années ouvre la voie à un développement socio-économique concret. Avant la mise en service, une séance d'information a été organisée à la salle polyvalente Kibuji Basonji. Les responsables du projet y ont présenté les modalités d'abonnement, les conditions de desserte et le fonctionnement de la centrale photovoltaïque. La population a pu poser ses questions et comprendre comment l'électricité servira directement la communauté. L'ingénieur Nicolas Ndiadia, responsable et constructeur de la centrale, a salué l'implication des habitants. Il a insisté sur l'importance de l'accès à l'électricité pour soutenir l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat local et surtout les radios communautaires qui jouent un rôle clé dans l'information et la sensibilisation des citoyens. Avec cette mise en service, Lubao dispose désormais d'une énergie stable pour ses habitants et services communautaires. Selon les responsables, ce projet porté par Lanceur constitue un levier essentiel pour améliorer les conditions de vie, renforcer les services de proximité et soutenir le développement durable dans ces territoires isolés.
Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable, tel est le thème de la Journée mondiale de la protection civile célébrée le 1er mars de chaque année. À cette occasion, le vice-premier ministre de l'Intérieur appelle à un sursaut national de responsabilité. Jacquemin Chabani a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la prévention et l'anticipation des risques environnementaux. Il appelle en même temps chaque citoyen à adopter des comportements responsables face à la recrudescence des catastrophes. On écoute Jacquemin Chabani dans cet extrait proposé par
Ce thème met en lumière l'impératif pour chaque État d'investir davantage dans les actions anticipatives afin de réduire les risques de catastrophes, en particulier ceux liés à la dégradation de l'environnement et à l'accélération des effets du changement climatique. Il nous rappelle que la gestion des risques environnementaux ne constitue pas un secteur isolé, mais une composante essentielle et indissociable de la protection civile. Ainsi, il nous incombe de renforcer nos dispositifs de prévention, de préparation et de réponse ainsi que de relèvement tout en promouvant des infrastructures adaptées et résilientes. La sécurité de nos populations et la stabilité de nos villes en dépendent. Chers compatriotes, face à la recrudescence des inondations, des érosions, des glissements de terrain et d'autres aléas, dans un contexte de vulnérabilité sociale et humanitaire persistante, la protection civile demeure un pilier fondamental de la sécurité nationale et du développement durable.
Actualité internationale.
Les autorités iraniennes ont annoncé hier la fin des opérations de recherche après les frappes aériennes conjointes des États-Unis et d'Israël contre une école primaire des filles dans le sud du pays. Bilan 165 morts, rapporte africanews.fr. L'établissement Shajareh Taïbé, situé à Minab, ville qui abrite également une base des gardiens de la révolution islamique, a été touché samedi par une attaque de grande ampleur conduite par Washington et Tel Aviv. Et comme conséquence de cette tension, les prix du pétrole ont grimpé en flèche et les marchés boursiers ont chuté aujourd'hui en Asie.
L'invité.
46 coopératives du territoire d'Isangi dans la province de Latchopo viennent d'être immatriculées auprès du Service national de coopératives et organisations agricoles relevant du ministère du Développement rural. Cette démarche a été rendue possible grâce à l'appui de l'Agence pêche de coopération internationale ENABEL au terme d'un long processus administratif. Mais quels sont les avantages liés à ces immatriculations? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Prosper Ntema, manager d'ENABEL dans la province de Latchopo. Il répond aux questions de Jacques Moukongolé.
Monsieur Prosper Ntema, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous venez de remettre le certificat aux coopératives agricoles. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Pour nous, c'est un aboutissement d'un processus qui a commencé dans le cadre de la stratégie que nous développons ici au niveau de la province de Latchopo. Nous avons un programme multisectoriel dans lequel l'agriculture a une place importante. Donc, pour cette agriculture, nous devons arriver tout d'abord à structurer l'agriculture. C'est un processus qui est long, qui était très bien conduit avec toute la rigueur que cela appelle pour que cela ne soit pas des coopératives mallettes, mais que ce soit vraiment des vraies coopératives qui répondent aux critères tels que l'OADA le stipule et tels que le Service national des coopérations et les organisations paysannes le souhaitent dans le cadre de la loi.
Quel est l'objectif à terme de ces certificats?
Un certificat, c'est un document qui légalise, qui vous donne droit à telle activité. Mais derrière ça, il y a quand même cette structuration que nous demandons parce que dans quelques années, vous allez voir la mise en œuvre des programmes sur la stratégie menée par le gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, qui prend comme pied de levier les corridors. On a deux corridors qui sont mis en place aujourd'hui, le corridor de l'Obito et le corridor vert. Le corridor vert qui va comprendre les provinces du Nord Kivu, passant par la Tchopo, la Mongala et Sud-Ubangi et Équateur jusqu'à Kinshasa. Donc c'est un corridor couloir vert qui demanderait de gros investissements. Et ces gros investissements qui vont avoir comme point d'ancrage énergie, transport, aussi comme chaîne de valeur, vont demander à ce qu'il y ait des produits qui sont utilisés à travers ces gros investissements qui vont avoir lieu.
Et donc, la production doit être le leitmotiv de ces coopératives.
Les produits agricoles, comme on le sait ici, sont des chaînes sur lesquelles nous allons tabler pour pouvoir répondre tout justement à une agriculture vraiment d'économie, une agriculture de business qui permette à ce que des productions qui puissent être acheminées dans des grands centres de consommation permettant aussi des échanges inter-provinces, inter-régions. Je vous rappelle que ce couloir vert va partir de la province du Nord Kivu. Et dans la province du Nord Kivu, c'est déjà bien avancé en termes d'organisation des coopératives autour de la fondation Virunga qui travaille déjà dans les productions agricoles et dans la transformation. Tous ces produits-là doivent cheminer à travers le couloir vert. Et la province de la Tchopo et du Sud-Ubangi dans lesquelles ENABEL travaille s'organise aussi afin que des projets à valeur agricole puissent être menés, mais tout en structurant le secteur agricole de ces deux provinces.
Comment allez-vous les accompagner?
Déjà, nous les accompagnons en structuration. Comment organiser? Nous venons de faire la légalisation à travers ces documents d'immatriculation au niveau officiel. Mais ensuite, nous allons continuer le renforcement de capacité de ces coopératives en leur apprenant à mieux comprendre c'est quoi l'esprit associatif, l'esprit coopératif, et par-delà, leurs membres à vraiment s'intéresser à avoir des vrais business, à prendre des risques. Des risques, c'est-à-dire qu'ils investissent dans le secteur agricole pour produire, et pas produire pour l'autosuffisance alimentaire, mais non, pour produire afin de commercialiser et avoir des gains de marché. Vraiment, le point le plus important, c'est qu'on ait des opérateurs agricoles de haute intensité dans la région pour pouvoir mieux l'organiser, pour donner beaucoup de valeur à la coopérative et aux services y relatifs.
Quels sont les principaux défis par rapport à votre feuille de route dans ce territoire?
Un des grands défis, c'est vraiment comment implémenter aujourd'hui la politique de couloir vert. Quelles sont les stratégies que nous devons développer afin que le couloir vert soit compris par tout d'abord tous les acteurs de la province, les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société civile, que tout le monde comprenne c'est quoi le couloir vert, qu'est-ce que l'État congolais veut à travers ce couloir vert qu'on va utiliser comme point d'ancrage sur le développement et économique. Mais là, c'est un travail que nous devons absolument faire en termes de lobbying vers les différents acteurs, mais aussi demander à ce que la partie de l'État congolais puisse informer les différents acteurs congolais par leur voix et que nos deux voix puissent venir se rencontrer pour bien comprendre ce qu'est le couloir vert.
Merci.
Je vous en prie, au plaisir.
Voilà, Prosper Ntema, manager d'Enabel dans la province de La Tchopo. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung et les Chikota Chivuita avec Dudoni Nyanga Salami. Son nom de Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.